RCF.
Suite d'une série d'entretiens avec Anne Lécu, religieuse dominicaine, médecin, auteur du livre « Tu as couvert ma honte » paru aux éditions du Cerf. Anne Lécu, le Dieu biblique n'a de cesse de couvrir l'homme de sa miséricorde. Nous l'avons vu, nous avons parlé des textes de la Première Alliance. Il nous faut regarder maintenant les évangiles. Vous montrez que Jésus, lui aussi, Dieu fait homme, va nous couvrir. Alors cette fois-ci avec sa tunique. Une tunique sans couture que les soldats tirent au sort. Hein, l'épisode est connu au moment de la Passion. Pourquoi cet intérêt pour la tunique du Christ ?
Mais en fait, c'est le point de départ de ma recherche, la tunique du Christ, parce que j'ai toujours été très... mais récemment, j'étais très impressionnée par le nombre de détails évoquant cette tunique. Enfin, on s'attarde beaucoup dans le chapitre 19 de Saint Jean sur le fait qu'elle est d'une seule pièce, donc tissée d'une seule pièce, sans couture, tissée depuis le haut et tirée au sort. Pourquoi tant d'importance ? Et en fait, on peut beaucoup tirer d'enseignement de ces quatre descriptions de la tunique, qu'elle soit sans couture, tissée d'une seule pièce. Il me semble se dire qu'elle n'est pas déchirable. Et le sans couture m'évoque ce que nous sommes pour Dieu, encore une fois. Que notre identité la plus profonde, que j'appelle notre innocence, n'est pas déchirable. Personne ne peut l'entamer, elle n'est pas entamable, on ne peut pas l'abîmer, on ne peut pas mettre un coup de canif dans l'innocence. Le péché peut recouvrir cette innocence, mais en aucun cas l'abîmer. Et ça, j'en suis fermement convaincue. Un peu comme vous savez, quand on écrit une icône, on commence par mettre une toile sur la planche, et c'est sur cette toile blanche on va mettre de l'enduit et sur l'enduit, on mettra les couleurs, d'abord sombre, puis clair, pour que le visage apparaisse. Et la toile, c'est en quelque sorte la toile maîtresse, c'est la peau de l'icône. Eh bien, je crois que la tunique sans couture du Christ est notre peau la plus profonde. Autrement dit, si nous la revêtons, elle recouvre en nous ce qui n'est pas Dieu.
Et donc, on retrouve cela dans le premier récit de la Genèse, puisque nous disions justement que l'innocence, c'est notre état d'être premier.
Avec une nuance qui est que cette fois, c'est une tunique de lin et non plus une tunique de peau. Donc, il n'y a plus besoin de faire couler le sang d'un animal, puisque le Christ a donné sa vie pour nous. Et du coup, je crois que le fait que la tunique du Christ... Alors, la tunique du Christ, elle est une sorte de tunique de luxe. Elle évoque d'autres tuniques de luxe qu'on a pu rencontrer auparavant dans le texte biblique, par exemple celle de Joseph, par exemple celle du grand prêtre, par exemple celle du fils prodigue. Et donc c'est intéressant d'aller voir aussi ces tuniques en question. Mais surtout, elle est en tissu et elle n'est plus, elle n'a plus besoin du sang versé. Oui, ça c'est très important.
Et alors elle est tirée au sort. Qu'est-ce que ça nous dit ça ?
Je crois que si elle est tirée au sort, ça veut dire qu'on peut tous la revêtir. C'est très simple. Ça veut dire qu'elle est pour tous. Voilà, elle n'est pas pour quelques-uns. Tirée au sort, c'est que tout le monde peut gagner le lot.
Moi, c'est intéressant parce que je m'étais jamais attardée sur cette tunique. Du coup, j'ai pris vraiment mot à mot tout ce qui est dit, cousu de haut en bas. Du coup, je me suis dit, ah oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui, ça veut dire que ça a dû démarrer vers le haut, ça
alors,
va vers le bas.
En bas, qu'est-ce que c'est ça intéressant veut dire aussi parce que le mot grec qui dit depuis le haut, anoten en grec, c'est le même mot qui est utilisé par Saint Jean quand il parle avec Nicodème pour naître d'en haut. Donc ça veut aussi dire qu'elle est un don du Père. Ça veut aussi dire que, oui, nous avons à la recevoir comme un cadeau du Père, qu'elle vient de Dieu.
Jésus en croix est nu, sur la croix justement. Qu'est-ce que vous diriez de... Donc ça se passe après. Donc il y a d'abord les soldats qui se disputent la tunique. Et puis après, effectivement, Jésus crucifié. Il n'y a pas d'habit, il est nu. En quoi la nudité du Christ va nous rejoindre ?
La nudité du Christ, c'est la guérison du dédudement d'Adam. C'est une nudité qui... Il est sans protection, en fait. Il est sans protection puisqu'il accepte, et pour moi ça c'est un truc complètement essentiel, il accepte de se laisser conduire jusqu'à mourir entre deux bandits, et donc il accepte d'être confondu avec les bandits. Et je crois que le fond du salut chrétien, c'est pas seulement l'incarnation du Christ, c'est pas seulement sa mort, c'est plus encore le fait, enfin c'est pas plus encore, c'est tout autant le fait qu'il accepte d'être confondu avec les pécheurs. Autrement dit, il prend sur lui le jugement, en ce sens qu'il est jugé par les hommes, qu'il est condamné par les hommes, de sorte que quelqu'un qui est condamné n'est plus seul désormais, puisqu'il est du côté des condamnés, du côté des coupables, de façon à ce que tous les coupables et les condamnés puissent se dire qu'ils ne sont pas seuls. Le Christ choisit délibérément d'aller jusque-là dans l'identification avec l'homme, à tel point que Paul, dans sa seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, dit de Dieu, « Dieu l'a identifié au péché, Dieu l'a fait péché pour nous, péché et ». Il est confondu avec le péché, non seulement avec les pécheurs, mais avec le péché. Donc la nudité du Christ, pour moi, c'est de dire qu'il est tellement confondu avec des coupables, alors qu'il est l'innocent par excellence, qu'il n'y a plus rien à accuser, et que le serpent n'a plus de prise pour accuser quoi que ce soit de Dieu. On ne peut pas dire de Dieu sur la croix qu'il s'en fout de notre vie, on ne peut pas dire qu'il est indifférent, on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas la souffrance, on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas la faute, puisqu'il est crucifié comme un coupable. Donc il n'y a plus rien à accuser, l'accusateur a perdu.
Anne Lécu, saint Paul nous dit que tous ceux qui ont été plongés dans la mort et la résurrection du Christ ont revêtu le Christ. Alors, retrouve cette idée de tunique. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ?
Revêtir le Christ, ça veut dire devenir Christ pour ce monde. Je crois que c'est fondamentalement ça. C'est-à-dire que revêtir le Christ, c'est que le Christ n'étant plus là physiquement aujourd'hui, il est là par son Église. Et son Église, c'est nous. Et donc, nous avons à être aujourd'hui Christ pour ce monde.
Revêtir la tunique tous les jours, ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?
Ça veut dire si Dieu, enfin, ce que j'en perçois, c'est tellement facile à dire et tellement difficile à vivre. Si Dieu se donne, si le mouvement de Dieu, c'est d'être pure relation et de se donner. Être Christ pour ce monde, c'est donner notre vie. Alors donner notre vie, c'est pas forcément mourir martyr après-demain. Hein. C'est tout simplement ce que font les parents quand ils s'occupent de leur enfant. Et qu'en fait, ils ne comptent pas le temps qu'ils y passent, parce que c'est ça leur bonheur. C'est tout. Et nombre d'entre nous connaissons, dans les gens avec qui nous travaillons, des hommes et des femmes qui, le soir, s'occupent, non seulement travaillent, mais s'occupent de leurs enfants, font les courses, s'occupent de la voisine, en profitent pour passer un coup de fil à leur grand-mère qui est toute seule. Et voilà, c'est ça, donner sa vie, d'abord et avant tout. D'abord.
Mais alors, la question du mal, parce que je peux marcher à la suite du Christ, essayer de revêtir cette tunique, on dit qu'au baptême, hein, celui qui a reçu la tunique, il est appelé à la porter. Mais alors, ça veut dire quoi par rapport à l'innocence ? Parce que je peux continuer à tomber, le mal ne m'atteint pas ? Au plus profond de moi, il y a quelque chose qui ne peut pas être touché ?
Alors moi, j'aimerais dire, mais c'est un peu compliqué, mais je vais prendre un détour. Il me semble que lorsque Jésus guérit des aveugles, ça c'est Jacques Ellul qui dit ça dans un très beau commentaire, il prend sur lui la malédiction de l'aveuglement, et donc en fait, Jésus ne devient pas aveugle parce qu'il guérit des aveugles, mais pour autant, il prend sur lui quelque chose de ce qui était la maladie. Et donc, Jacques Ellul dit, il prend sur lui la malédiction de la maladie, et donc du coup, il sépare la malédiction de la maladie, ce qui fait qu'après le Christ, la maladie est absolument sauve de malédiction. Bon, ça encore faudrait-il que nous puissions le croire, mais je pense que c'est vrai.
Oui, parce que souvent on se dit qu'est-ce que j'ai fait au bon
Exactement.
Dieu.
Exactement. Eh bien, il me semble que pour le péché, il y a un peu un truc analogique et que la malédiction de la faute est portée par le Christ seul, une fois pour toutes, sur la croix. Ça ne nous empêche pas de retomber, ça ne nous empêche pas de pécher, mais il me semble que si nous tournons notre regard vers le Christ au moment même où nous péchons ou juste après que nous ayons péché, déjà nous sommes dégagés du péché. Il me semble que le mouvement, c'est toujours se retourner vers le Christ. Et il y a dans le livre un très joli apophtègme que je vole à un père du désert qui raconte une magnifique histoire d'un moine qui est tombé dans la fornication pendant 3 ans. Et son père spirituel, qu'on appelle un igoumène diuratique parce qu'il a le don de voir ce que les autres ne voient pas, n'est pas au courant que le moine est tombé dans la fornication. Bien. Et voilà qu'un jour, il apprend pourtant, par le don de Diorasie, que le moine est tombé. Il appelle son moine, qui lui dit « Ben oui, effectivement, voilà 3 ans que ça dure, que je vais à l'action mauvaise tous les soirs. » Et le père spirituel est tout à fait étonné en disant « Mais comment ça se fait que je ne sois pas au courant ?» Et le petit moine répond « C'est parce que tous les soirs, à l'aller et au retour, je récitais les canons des psaumes en entier. Mais la dernière nuit, le démon m'a désespéré et je n'ai pas récité les canons de psaume. » Et donc, le maître spirituel répond « Puisque Dieu a recouvert pendant 3 ans ta faute, moi, pareillement, je te pardonne pour le péché de la dernière nuit. » Donc, il me semble que c'est très riche d'enseignements, cette histoire. Ça veut dire que bien sûr que nous retombons. Bien sûr que oui. Et pour autant, si nous ne lâchons pas notre regard du Christ, eh bien, peut-être que déjà le péché est presque pardonné.
C'est la constance.
Je crois que c'est vraiment la constance, c'est regarder vers le Christ. Ne pas le lâcher. Ne pas lâcher sa main. Vraiment.
Jamais désespérer.
Et ne jamais désespérer.
Nous terminons ces entretiens demain. Merci Anne Lécu.